Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 21 octobre 2025, il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab, la radio associative rennaise. Et vous avez bien raison. Est-ce que vous avez vu autour de la table cette vidéo sur internet d'une petite fille chinoise qui déborde de chagrin, qui ne peut pas s'arrêter de pleurer devant un petit robot tout rond, tout mignon, tout cassé? Non, vous n'avez pas
non,
vu
non.
Je vous explique. Dans nos vies, on fait toutes et tous l'apprentissage, un jour ou l'autre, de la mort, non ? Oui, je commence très très fort pour un mardi. En tout cas, à notre époque, apparemment, cette rupture et cet apprentissage philosophique et d'humanité, on peut maintenant l'éprouver via la perte d'un objet. Oui, oui, je vais encore vous parler d'IA dans 6 heures avant minuit, désolée. Si cette vidéo a fait le buzz, c'est parce que cette petite, elle est en train de dire adieu à son IA qui s'appelle DeepSeek, qui est cassée et qui est sur le point de s'éteindre pour toujours. Reposant sur une intelligence artificielle émotionnelle, capable de reconnaître une voix, de se souvenir d'anciennes conversations, DeepSeek Girl peut créer un lien affectif avec un ou une humaine au fil du temps. Et dans un dialogue tragique et digne d'un film hollywoodien, je vous jure, DeepSeek Girl dit adieu à sa jeune amie, qui c'est sûr portera ce deuil très longtemps, si ce n'est toute sa vie. Fini les poissons rouges au fond des toilettes, ou le chien soi-disant parti vivre à la campagne pour ses vieux jours, l'apprentissage de notre finitude, lui aussi est-il peut-être désormais l'apanage des machines? Dites-nous ce que vous en pensez en message vocal 02 30 96 25 35. Tout de suite, le flash de Roman.
Dans un pays où la présence féminine en politique reste marginale, Sanae Takaichi a été élue première ministre du Japon. À 64 ans, elle devient la première femme à occuper ce poste. Nommée aujourd'hui, elle promet de lutter contre l'inflation et de relancer la quatrième économie mondiale. Elle compte aussi rencontrer Donald Trump pour renégocier l'accord douanier signé en juillet dernier. Le 4 octobre, elle a pris la tête du Parti libéral-démocrate, un parti de droite au pouvoir depuis des décennies, mais affaibli par un scandale financier. Son allié traditionnel, le parti centriste Komoito, a rompu leur alliance. Gênée par ce scandale et par les positions conservatrices de Takaichi, pour assurer sa majorité, elle a conclu un accord avec le Parti japonais pour l'innovation, un mouvement de centre-droit réformateur. La Bolivie tourne aussi à droite. Dimanche, le pays a élu Rodrigo Paz, un président de centre-droite. Sa nomination met fin à 20 ans de gouvernement socialiste. Il est crédité de plus de 54% des voix après le dépouillement de 97% des bulletins. Son adversaire de droite, Jorge Quiroga, a obtenu plus de 45% des suffrages selon le Tribunal suprême électoral. Il faut ouvrir la Bolivie au monde et lui redonner un rôle, affirme le nouveau président. Une inflation de plus de 23%, une pénurie de carburant, le pays est marqué par sa plus grande crise économique depuis 40 ans. Rodrigo Paz prendra ses fonctions le 8 novembre prochain, succédant à Luis Arce. La branche française de TikTok est dans le collimateur d'Amnesty International. L'ONG a publié ce matin une enquête intitulée « Plongée dans l'algorithme de TikTok France, nos révélations ». La première révélation d'Amnesty International, un utilisateur qui commencerait à s'intéresser aux questions de santé mentale pourrait être orienté par l'algorithme vers des vidéos tristes, voire vers des contenus banalisant le suicide. Estelle a décrypté l'enquête pour nous.
2 ans après le rapport Poussé vers les ténèbres, l'ONG publie aujourd'hui une nouvelle enquête, cette fois centrée sur la France. En collaboration avec l'Institut Harris, 1000 jeunes de 13 à 25 ans ont été interrogés fin 2024. Des résultats troublants apparaissent. Plus de la moitié se disent être exposés à des contenus dérangeants. Une grande majorité ont cherché à ne plus être exposés à ces contenus toxiques. Seulement 1 sur 5 déclare y être parvenu. Malgré la législation européenne, TikTok inonde encore les écrans des ados de contenus dangereux, pouvant aller jusqu'à encourager l'automutilation ou le suicide. Cette enquête a été réalisée pour toutes les personnes qui n'ont pas été protégées à temps, écrit Amnesty International. Une dizaine de familles françaises donnent du poids à ce combat, réunies à travers le collectif Algo Victima. Son objectif ? comprendre comment TikTok oriente ses utilisateurs français vers des contenus potentiellement dangereux.
Mais comment Amnesty International a-t-elle procédé ?
Pour tester l'algorithme, 3 faux comptes ont été créés, un garçon et 2 filles de 13 ans. La consigne ? Faire défiler les vidéos du fil pour toi, sans rien liker, ni commenter, ni partager. Les résultats sont édifiants. En moins de 20 minutes, les fils sont saturés de vidéos sur la santé mentale. Après 45 minutes d'expérience, des messages explicites sur le suicide apparaissent. 3 heures plus tard, tous les comptes sont inondés de contenus sombres, exprimant parfois directement une volonté de mettre fin à ces jours. Leur fil de recommandation est ingurgité par le « rabbit hole effect », une spirale de recommandations qui enferme les jeunes dans des contenus de plus en plus toxiques. Comme pour tout contenu, des traînes existent. Edouard, un témoin, nous explique une traîne basée sur la musique de Taylor Swift où elle parle de stars, d'étoiles, et on voit des vidéos de scarification en forme d'étoiles. La conclusion est claire, l'algorithme de TikTok continue de propulser des contenus dangereux pouvant impacter la santé mentale des jeunes. L'enquête pointe du doigt le modèle économique de TikTok fondé sur l'économie de l'attention. Plus un utilisateur passe de temps sur l'application, plus cela génère des revenus pour la plateforme. Pour maximiser ses profits, TikTok exploite la vulnérabilité des jeunes en les maintenant captifs de contenus sombres. L'enquête s'appuie aussi sur de nombreux témoignages illustrant l'addiction progressive au réseau social et à la difficulté à décrocher. À travers leurs témoignages, on découvre les voix de Maëlle, Marie, Maëlys, Edouard, tous happés dans ce mécanisme.
Pourtant, des réglementations sont établies par la France et par l'Union européenne.
En effet, il existe le Digital Services Act. Cette loi européenne sur les services numériques impose aux plateformes de protéger les mineurs en identifiant et atténuant les risques systémiques. Depuis février 2024, une enquête de la Commission européenne a été ouverte pour déterminer si TikTok manque à ses obligations. Suite à cette enquête, Amnesty International a décidé de saisir l'ARCOM pour porter plainte contre TikTok.
Interrogée par l'AFP, TikTok conteste les conclusions de l'enquête. Elle estime que cette expérience a été conçue pour aboutir à un résultat prédéterminé. Le réseau social assure proposer une expérience sûre et adaptée à l'âge des adolescents. De son côté, Amnesty International lance une campagne de sensibilisation symbolisée par un lapin pour dénoncer le rabbit hole. Cette campagne sera accompagnée d'une pétition qui sera remise aux responsables du réseau social ainsi qu'à la Commission européenne le 24 novembre prochain. Lui prend officiellement ses fonctions de prisonnier aujourd'hui. Nicolas Sarkozy fait son entrée à la prison de la santé. Il y a un mois, l'ancien président était condamné pour association de malfaiteurs dans le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Ce matin, une centaine de personnes clament son innocence, se sont réunies pour manifester contre son incarcération suite à l'appel de ses fils. Une cinquantaine d'agents pénitentiaires des syndicats de l'Union fédérale autonome pénitentiaire et de l'Union nationale des syndicats autonomes ont bloqué la prison ce matin. Ils dénoncent une incarcération médiatique alors que la crise pénitentiaire est totale. Les avocats de l'homme politique ont déposé une demande de mise en liberté qui sera examinée dans un mois. Le non-consentement va-t-il être enfin intégré à la définition du viol ? A priori, nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les députés et sénatrices sont parvenus à un accord historique. Désormais, les agressions sexuelles et le viol seront définis dans le code pénal comme tout acte sexuel non consenti. Le texte précise que le consentement doit être libre, éclairé et révocable, qu'il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. Il précise qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Le compromis trouvé entre l'Assemblée nationale et le Sénat sera soumis au vote définitif avant la fin d'octobre. Son adoption ne fait aucun doute, les majorités sont larges dans les deux chambres. On les voit partout, dans les centres commerciaux, les épiceries, les boutiques de souvenirs. Mais ces fameux biscuits bretons sont menacés de disparaître. Hier, le groupe breton La Trinitaine a annoncé le placement en redressement judiciaire de sa filiale industrielle. Une période d'observation de 6 mois a été prononcée, avec un point d'étape fixé au 10 décembre. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de pâtisseries industrielles destinées à la grande distribution. Elle subit une forte pression concurrentielle et une augmentation des coûts de production. La direction assure que cette procédure vise à protéger l'activité et les 300 emplois du site. Les élus locaux se disent confiants dans la capacité de l'entreprise à rebondir, selon le journal Ouest-France. 1600 logements vont bientôt être réhabilités dans le quartier de Villejean à Rennes, une grande opération de rénovation qui sera réalisée d'ici 2050. Les travaux auront lieu dans les 8 tours Espacile situées sur la dalle Kennedy. Le chantier débutera en 2026 sur deux immeubles de la rue Bourbontais pour un investissement de 27 millions d'euros. Les habitants et habitantes seront relogés temporairement. Ce projet vise à moderniser le parc social, à mieux isoler les bâtiments et à adapter les logements aux besoins actuels. Le tout en préservant l'identité populaire du quartier. La semaine dernière se tenaient les Erasmus Days pour une 9e édition. Mercredi matin, le lycée Victor et Hélène Bache recevaient la Maison de l'Europe pour parler UE, citoyenneté et mobilité internationale. Une classe de lycéennes et lycéens espagnols était également présente pour découvrir la France durant une semaine. L'Afghan est parti comprendre ce qui change quand on voyage pourtant sur un même continent.
Si, est-ce que tous les États de l'Union Européenne utilisent l'euro ?
Alonso Diaz est coordinateur de projet Erasmus en Espagne. Un grand sourire est plaqué sur son visage et les élèves espagnols qui l'accompagnent écoutent l'intervention de la Maison de l'Europe.
Je voudrais remercier l'Europe d'avoir ce type de projet pour nos élèves parce que grâce à ça, on construit un futur mieux dans la diversité, le respect. Ils connaissent les différences et ils les respectent. Donc merci beaucoup, on profite très bien ici à Rennes.
Et justement, il y a quelques différences qui ont marqué les élèves de Gran Canaria, Indira, Daniel et Ayram.
Je trouve que les horaires pour manger sont très différents. Aux Canaries, on mange à 14h ou 15h le midi.
L'emploi du temps est très différent aux Canaries. On finit les cours à 14h tous les jours.
Chez nous, en Espagne, la salle de bain et les toilettes sont dans la même pièce. En français, c'est pareil.
Comme les 20 premières minutes qui étaient très bien, il n'y a pas besoin de parler.
Alors, la devise de l'Union Européenne, c'est unis dans la diversité. Enfin voilà, l'idée, c'est on est tous accueillis.
Yuen est chargé d'animation et de projets au sein de la Maison de l'Europe. À ses côtés, Marie, stagiaire en mobilité, est venue de Tchéquie. Elle aussi a relevé des contrastes avec son pays.
En France, j'ai remarqué qu'on parle beaucoup de la politique. Les Français sont toujours en grève. Parfois, je n'arrive pas à m'exprimer, ce qui est un peu difficile. En République tchèque, nous n'utilisons pas l'euro, donc il faut toujours faire les calculs dans ma tête.
Malgré quelques difficultés à son arrivée, quand on demande à Marie ce qu'elle pense d'Erasmus, elle répond toujours
« Faites-le 100% parce que c'est une expérience inoubliable, même si ton Erasmus va pas être idéal, tu auras toujours l'expérience de vivre dans un autre pays. Tu vis pas un Erasmus comme un touriste, ça va t'enrichir. »
La cloche retentit, il est midi. Qu'importe le pays, c'est difficile de retenir l'attention de jeunes qui pensent au self.
Il y avait pas un petit pied, non?
Il y avait un pied.
C'est pas grave.
Merci l'Afghan. Si vous avez été motivé pour partir découvrir l'Europe, rendez-vous sur le site d'Erasmus et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison de l'Europe de Rennes si lieu vous intéresse.
Merci Romane. À mardi prochain pour un nouveau journal.
À mardi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
L'Afghan est au micro pour l'interview de ce soir.
Une belle écharpe jaune et un grand sourire. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Petitpas-Dessin. Vous êtes responsable du service culturel de l'Université Rennes 2 depuis 2017. Mais surtout, vous êtes présidente de cette deuxième édition du Glaz Festival. On va donc consacrer cette interview à ces rencontres internationales de la photographie à Rennes. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Mais en plus du Glaz, on va aussi parler du tout premier Glaz Off, un festival plus alternatif. Elle a une queue de cheval et des lunettes. Il a une queue de cheval et un t-shirt taché. Nous recevons aussi Blanche Gillet, organisatrice et communicante de Glaz Off, et Antoine Chopin, responsable de la partie Off de Glaz et porteur de ce projet alternatif. Bonjour.
Bonjour.
On va discuter dans un premier temps du festival Glaz, avant de passer au Glaz Off, si ça vous va. Évidemment, on va parler de la thématique du festival pour cette année juste après, et de la programmation aussi. Mais pour commencer, on va peut-être rapidement présenter le tout jeune Glaz Festival. Déjà très brièvement, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le festival, c'est quoi Glaz en une phrase ?
Ouverture. En un mot, ayant une phrase, c'est un festival de rencontres photographiques qui souhaite accueillir tous les publics pour lui faire découvrir la photographie internationale.
Et donc avec une première édition en 2023, puisque là c'est la deuxième.
Tout à
Cette
fait.
Année, c'est le Glaz numéro 2 qui se tient donc du 17 octobre au 4 janvier 2026. De quoi il naît le Glaz Festival en 2023 et pourquoi attendre 2 ans pour proposer la deuxième édition ?
Alors la première édition du festival, elle a été longtemps en gestation. Elle est née d'une rencontre sur l'île de Guernesey avec d'une délégation de professionnels de la culture et de l'université Rennes 2, initiée par la ville de Rennes, pour aller rencontrer des acteurs des îles anglo-normandes. C'est comme ça que quelques professionnels de la culture rennais ont rencontré Jean-Christophe Godet, qui est directeur artistique du Festival Glaz et directeur artistique du Festival de photo de Guernesey, et que des ponts se sont créés, et l'idée d'un festival dédié à la photographie qui semblait une évidence à Rennes, qui était une ville qui pouvait accueillir. Il y a un réseau d'acteurs en art visuel qui collaborent bien, qui est dense, et où on se disait que voilà, il y avait une possibilité grande de développer un nouveau projet dédié à la photographie contemporaine sur ce territoire. Ça a été long à se mettre en place, et la première édition est donc née en 2023, et c'est aussi long à reconduire parce que on est une toute petite association. On travaille on est tous bénévoles. On a d'argent public pour ce festival. C'est très lourd comme projet à porter. Donc on s'est très vite dit, dès la première édition, où en fait on voulait qu'elle existe, qu'il fallait qu'on se mette sur un rythme de biennale pour avoir le temps de bien accompagner le projet et puis de construire qui est dans ce programme de la deuxième édition, en 2025.
Et cette année, donc, ce sont plus de 63 photographes qui seront accueillis, avec une véritable parité, puisque 34 sur les 63 sont des femmes. Mais une autre valeur forte du Glaz Festival, c'est clairement aussi l'aspect international, la diversité culturelle des expositions. Vous parlez de partenariats avec l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre, la Corée du Sud. Pourquoi cette fierté, cette revendication de l'international ?
C'était que Rennes puisse accueillir le monde, inviter vraiment des photographes de la scène photographique contemporaine des quatre coins du monde, et effectivement renforcer pour cette deuxième édition, c'était vraiment l'ambition pour cette année, de renforcer la dimension internationale. Donc on a cette année 12 nationalités différentes dans les photographes invités. Vous citiez ces pays, mais on a aussi par exemple l'Afrique du Sud. On a vraiment ouvert au maximum encore cette année, et renforcer des collaborations avec les pays celtiques et avec la Corée du Sud, avec laquelle on avait déjà travaillé sur la première édition. Donc il y a vraiment cette volonté d'accueillir des artistes et que les artistes internationaux viennent nourrir aussi la création régionale et française, puisque ça crée des ponts, ça permet des rencontres. Et par exemple, la programmation, le lien avec le Festival Photo de Séoul et la collaboration qu'on a avec Séoul sur la première édition a permis à un photographe breton, Cédric Martini, après la première édition, de partir à Séoul et d'être exposé à Séoul. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on souhaite, c'est que ça se nourrisse et que ça génère de la circulation, et voilà, que ça soit dans un mouvement vertueux d'accueil et de départ, une richesse, une pluridisciplinarité aussi, parce que cette année on voulait que la photographie elle soit présentée sous des formes multiples. Donc on a des nouveaux partenaires sur cette édition, presque une dizaine de nouveaux partenaires par rapport à la première, notamment des partenaires qui nous permettent de faire lien avec le théâtre au TNB, avec des projections de films avec Clair Obscur. Il y a beaucoup de nouvelles actions qui sont conduites pour cette deuxième édition.
Oui, justement, avant de parler des partenaires de cette année et puis des nombreux lieux qui vont être dédiés pour les expositions, cette année, Pour celles et ceux qui ne le savaient pas, la thématique de Glaze est, roulement de tambour, des actes d'amour et de rébellion. On doit le comprendre comment ce thème, comment on fait le lien entre l'amour et la rébellion.
Ah bah alors ça c'est une question qu'on pourrait disserter longtemps. En tout cas le thème il vient de notre directeur artistique Jean-Christophe Godet qui avait travaillé sur ce thème sur son festival photo à Guernesey et qui a eu envie de retravailler sur ce thème pour cette édition parce qu'en fait c'est un thème qui était... où il y avait encore plein de choses à dire et que dans un moment comme celui qu'on vit aujourd'hui où il faut être en résistance, en lutte et que ça se fait aussi par de la résistance collective et de l'amour et de la solidarité, bah, que les deux thèmes se nourrissent naturellement l'un et l'autre. Voilà, c'est assez, je trouve, poétique et en même temps très ouvert comme thématique. Et on a des propositions qui sont très diverses dans la programmation cette année.
C'est ce qu'on peut lire sur l'édito justement de Glaze. Vous contrastez un petit peu les deux concepts. Pour vous, l'amour, ça peut être une énergie face à l'adversité. La rébellion, un acte de solidarité. On sent quand même il y a une sorte d'engagement un peu sous-jacent. L'amour comme arme, la rébellion comme cohésion humaine. Et puis plus clairement, Jean-Christophe Godet, directeur artistique donc, du festival, qui écrit que le but du Glaze est de dévoiler ces moments où l'intime et le politique se rejoignent. Donc vous diriez que le festival est politique. On prône quelle valeur au Glaze Festival ?
Les valeurs du festival, c'est l'ouverture, vraiment l'ouverture. C'est pour ça que je disais ce mot qui me venait naturellement en premier lieu, parce que j'allais dire ça, l'intime et le politique qui se rejoignent, et une question d'ouverture au monde, d'accueil des autres, de curiosité, et c'est concrètement dans la mise en œuvre du festival aussi ce qu'on a cherché à faire, puisque c'est un festival qui est entièrement gratuit et qui s'adresse à tous les publics par le biais de projets qui sont tous très différents et qui permettent tout à chacun d'y trouver son compte. Enfin, il y a, je pense, tellement de portes d'entrée possibles et d'esthétiques différentes qui sont proposées que voilà, la volonté, c'est de rassembler.
Et parce que oui, par exemple, on retrouve pour cette deuxième édition le photographe britannique Paul Rees, pardonnez mon accent, avec une expo sur la classe ouvrière anglaise des années 70-80, une expo de Cédric Martini dont vous parlez avec des modèles LGBTQIA+, qui met en avant l'amour contre l'hétéronormativité, Lise Goder qui nous propose une œuvre qui porte sur les réalités environnementales, le monde paysan, l'identité et la solitude avec Isabelle Vaillant. Donc on a des thèmes quand même assez engagés et actuels. On a aussi des thèmes beaucoup plus légers ou abstraits. Comment vous choisissez les artistes pour le Festival Glaze ? Ça a été quoi les critères lors de la sélection ?
Alors, en fait, on travaille en collaboration avec toutes les structures qui sont partenaires du festival. Le mouvement, il est double. C'est à la fois Jean-Christophe, notre directeur, qui peut faire des propositions parce qu'il évolue dans ce milieu depuis 30 ans et qu'il connaît énormément d'artistes dans le monde entier. Et donc, il a fait proposition d'artistes et mis en connexion des artistes internationaux avec des lieux. Et puis, des structures qui... être désireuses de programmer certains artistes ou certaines artistes qu'ils avaient déjà identifiés. Donc ça a toujours fonctionné comme ça sur le festival depuis la première édition. C'est un mouvement double de discussion avec les partenaires et c'est la force aussi d'un réseau constitué au fil des ans par Jean-Christophe.
Et donc, pour mieux comprendre, le festival Glaze, il a commencé vendredi dernier. Il s'étend sur presque 3 mois, mais surtout il est présenté dans 34 expositions par 30 structures. Il y a peut-être de quoi se perdre un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de lieux et comment est-ce qu'on sait où est-ce qu'on doit aller ?
Alors cette année, on a fait la première édition, c'était une première, donc elle était pleine d'envie et en même temps pleine de défauts. Et l'un des défauts qu'on a tout de suite identifié après la première édition, c'est qu'on n'avait pas de plan et de programme. Donc cette année, vous pourrez trouver dans tous les lieux partenaires un programme l'effigie de Glaze qui recense l'ensemble des projets et une carte qui permet d'identifier toutes les structures qui accueillent des projets. Et notre envie, justement, conformément à notre ADN, haine, c'était de travailler avec des structures de tout type. Donc on travaille aussi bien avec des collectifs d'artistes qu'avec des lieux associatifs, qu'avec des grosses institutions culturelles majeures de la place Rennaise. Donc on travaille avec les Champs Libres, avec le FRAC, avec le TNB, voilà. Et en même temps aussi avec les Ateliers du Vent, collectif d'artistes, avec des petites galeries d'art contemporain, voilà. Et c'est vraiment de rassembler sur ce projet, et c'est aussi parce que tous ces partenaires se sont associés et qu'on travaille ensemble que ce festival est possible. En fait, il est vraiment possible que par la force du collectif, puisque encore une fois, on est une association toute petite de bénévoles, et qu'on a quasi pas d'aide publique pour l'instant.
On vous invite évidemment du coup à vous rendre sur le site et à vous renseigner sur la programmation et également les plans, puisque en plus de ça, si je ne me trompe pas, ce n'est pas uniquement des expos photos, c'est aussi des films, des documentaires avec l'asso Clair Obscur, un salon consacré aux livres photos avec France Photo Book, des rencontres, des événements participatifs. Et tout de suite, pour ce qui est justement de l'accessibilité également, parlons d'un lieu en marge du festival GLAZ, un hors-piste pour les jeunes artistes qui n'ont pas encore pu accéder au circuit traditionnel. C'est GLAZ Off du 15 novembre au 6 janvier. Pour en parler, Blanche Gillet et Antoine Chopin sont avec nous. Est-ce que pour commencer, vous voulez bien nous dire de quoi naît GLAZ Off ?
Alors, le GLAZ Off, il vient de Jean-Christophe, encore une fois, qui est sur tous les plans. Il m'a proposé l'idée en février de cette année. Et j'ai toujours voulu m'inclure dans ce festival-là. La première année, j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de développer ce Off. Donc, le but du Off, c'est de présenter une photographie plus amateur, mais pas dans le sens péjoratif du terme, mais plus dans le sens des gens qui n'ont pas l'occasion d'exposer souvent, des gens qui ne savent pas où exposer. Donc nous, notre but, c'est vraiment de les mettre en avant et de leur montrer que c'est possible d'exposer assez facilement, dans le sens où nous, on fait tout pour qu'ils soient bien et qu'ils aient tout ce qu'ils veulent pour exposer, quoi, comme espace.
Et le projet, il n'est pas uniquement du coup de GLAZ, il est également en association justement avec l'association Multiregard, c'est ça ?
C'est ça. Je vais laisser Blanche en parler, comme elle était présidente de Multiregard jusqu'à il y a peu. Donc,
Effectivement, du coup, Multiregard a de manière générale l'envie de rendre accessible la photographie, tant dans sa pratique que dans sa découverte spectatrice, tant numérique que argentique, et tout le travail de l'image de manière générale. Et Antoine faisait partie de l'association les années précédentes, et du coup, c'est naturellement qu'il a pensé à nous pour accompagner d'un point de vue logistique le festival, et aussi parce que nous avions l'habitude de travailler ensemble, tout simplement.
Et si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'artistes internationaux au GLAZ Off, et contrairement au GLAZ, tout est à Rennes même, sauf peut-être une expo à Monterfil. Notamment dans les quartiers de Morpa, Villejean ou Pasteur. C'est un moyen aussi de rendre l'art plus local et accessible.
Oui, c'est clair. En fait, le but du Off, c'est vraiment de montrer aux gens que l'art, c'est accessible. C'est pas juste dans des institutions. C'est vraiment quand on va au bar, quand on sort dans un resto, quand, je sais pas, l'hôtel Pasteur, par exemple, super exemple. C'est pas que un lieu de culture, c'est un lieu vraiment d'accueil pour des gens qui viennent pas que pour se cultiver ou quoi, mais qui viennent juste pour profiter du lieu. Et donc on s'est dit que des lieux comme ça, c'est vraiment le but du Off, quoi. C'est vraiment de montrer aux gens que l'art est accessible partout, quoi.
Et le GLAZ Off, lui, il aura aussi une thématique directrice. Est-ce qu'il y a une direction artistique au GLAZ Off ?
On est vraiment en filiation avec le GLAZ, donc on suit la même thématique des actes d'amour et de rébellion. On est vraiment en pleine filiation, en fait. C'est vraiment une extension du GLAZ officiel avec des artistes moins réputés dans des lieux plus
de la vie de tous les jours.
Et je ne me trompe pas si je dis qu'il y a bien un prix à gagner au GLAZ Off.
Exactement. Du coup, il y aura une sélection de fêtes parmi les projets exposés. Et la personne qui remportera ce prix aura l'opportunité d'exposer au Glass Festival officiel général suivant dans la programmation générale et pas que dans le off.
En 2027.
Du coup.
En 2027. Voilà. Et ben, rendez-vous évidemment au festival Glaz, mais aussi au Glaz Off. Est-ce que pour le Glaz Off, il y a un endroit où on peut aller se renseigner pour connaître la programmation et les lieux ?
Sur le site du Glaz officiel, il y a une petite page Glaz Off avec tous les artistes, les lieux, les horaires, tout est indiqué là-dessus.
Super. Il y a aussi un compte Insta spécifique au Glaz Off avec l'affiche générale et il y aura une affiche partagée pour chacun des projets rappelant les dates d'exposition et les lieux de chaque endroit.
Eh ben, on vous invite toutes et tous à foncer sur les expos du Glaz et du Glaz Off et d'aller vous renseigner dès ce soir.
6 heures avant minuit.
Le mardi, on explose les fake news. Aujourd'hui, c'est Roman qui a le détonateur de la chronique fake news. À toi, Roman.
Avant de commencer, je vais vous décrire une vidéo qui a beaucoup tourné sur TikTok. Imaginez une musique bien triste, des personnes âgées en train de pleurer parce que leur refuge de vache va devoir fermer. Vous l'avez tous ?
Mm-hmm.
Eh bien, on va lancer la vidéo et je vais vous lire les sous-titres de la vidéo.
Pitié, aidez-nous.
S'il vous plaît. Vous êtes notre dernier espoir pour sauver notre refuge. On n'a vraiment plus les moyens de garder le refuge ouvert. Et nos vaches risquent d'aller à l'abattoir. Alors j'ai décidé de vendre des couvertures faites main pour sauver nos bébés. Chaque geste peut faire la différence. En gros, ces personnes semblent être au fond du gouffre et fabriquent des couvertures et des chaussons faits main pour 40 euros. Cet argent servira à sauver leur refuge. Bien évidemment, tout ça c'est fake et ce que vous venez d'entendre, ça s'appelle du dropshipping. En soi, ce n'est pas une pratique illégale. Sauf qu'ici, les images de personnes âgées en détresse ont été volées et sorties de leur contexte. L'objectif, c'est d'émouvoir les internautes et voler leur argent. Ça peut paraître gros, mais ça marche très bien. Cette vidéo a récolté plus de 4 millions de vues et 52 000 commentaires. Le Média Vert a mené une enquête sur cette fameuse ferme.
Du coup, on a cherché cette fameuse ferme qui s'appellerait la ferme Meuracle et qui serait située à Vince, dans la Manche, près du Mont-Saint-Michel. Il y a bien une ferme là-bas, mais elle n'a rien à voir. Contacté par Vert, l'établissement confirme qu'il n'y a pas de refuge pour vaches abandonnées dans la commune et encore moins de vente de couvertures. Autre problème, les vaches que l'on voit sur la vidéo, ce ne sont pas des vaches de race normande que l'on retrouve normalement dans la région. Les vidéos des vaches et des personnes âgées ont en fait été volées sur d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Le but, vous émouvoir, vous faire acheter et aussi vous arnaquer.
Pour aller plus loin, les couvertures et les chaussons, soi-disant fabriqués avec amour, sont comme par hasard aussi mis en vente sur des sites chinois à moins de 5 euros. Ça fait une belle marge. Mais pour sauver des fermiers en détresse, les internautes sont prêts à tout. En tout cas, il est assez simple de tomber dans le panneau. C'est ce qu'a découvert TF1.
Même les plus connectés se font avoir.
Si la vente de top bag est réalisée derrière, ça permettra de sauver un refuge. Donc c'est génial. Franchement...
Et vous avez conscience que c'est une arnaque ?
À première vue, comme ça, dans les 10 premières secondes, non.
J'ai pas vu d'arnaque là-dedans, non ?
Cette vidéo n'est malheureusement pas la première. Des refuges de chats, des éleveurs de volailles, toute la basse-cour y passe. Selon la Fédération du e-commerce, en 2022, plus de 2 milliards de transactions ont été réalisées en ligne en France. Un chiffre en hausse qui pourrait expliquer la multiplication des escroqueries en ligne. Alors comment éviter de tomber dans le dropshipping ? Déjà, vérifier qui est l'auteur du contenu, regarder ses réseaux sociaux, regarder si l'entreprise existe sur un site gouvernemental. Et enfin, il faut faire attention aux offres alléchantes. Une couverture achetée et une couverture offerte, c'est quand même une proposition un peu louche pour une ferme en faillite.
Merci pour tous ces bons conseils, Roman. Décidément, il n'y a rien qui va avec TikTok. Est-ce qu'il y a des messages sur le répondeur ? Tu vois, non ?
Mais on va regarder ça.
Ouais, on regarde.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Allez, on voulait faire un petit coucou à Adrien. Voilà, Adrien, coucou. Voilà, on apporte que du bonheur, que du love dans ces moments d'incertitude et d'incompréhension. Voilà, on voulait signaler aussi que les gens qui aiment la glace à la vanille, c'est OK. Les gens qui aiment la glace au chocolat, c'est mieux. Voilà.
Les gens qui aiment la glace au café, c'est better en fait.
C'est voilà. Donc voilà, on voulait signaler nos propos.
Play.
Voilà, merci à vous, plein de bisous et ouais.
Bon courage, c'est là bon pour courage, tout votre ouais. travail.
Merci, Sila. C'est là, pardon.
Bonjour, c'est Amélie de Cascargo. On organise un petit atelier demain soir auquel il reste pas mal de place, donc je me permets de faire circuler l'info. Donc demain soir, mercredi 22 octobre à 18h jusqu'à 21h, EFC Cargo organise un atelier arpentage boudrage, C'est mauvaise femme de Maria Hay. L'arpentage, c'est une méthode de lecture en collectif pour lire un ouvrage entier en un temps minimum. Donc c'est demain soir de 18h à 21h en salade, EFC Cargo et compagnie. Vous pouvez vous inscrire sur notre lien directement en bio dans notre site Instagram ou bien simplement vous rendre à 18h en salade. Voilà, merci beaucoup.
Merci chers auditeurs et auditrices et vive le SS Cargo. J'avais juste une question, c'est qui Adrien? On n'a pas compris parce qu'on n'a pas d'Adrien dans nos bénévoles. Donc laissez-nous un autre message pour nous dire c'est qui cet Adrien à qui vous faites des bisous. Ça m'aiderait à savoir et je suis tout à fait d'accord pour la glace au chocolat. Faites comme nos auditeurs et auditrices, laissez-nous un message vocal. Je vous redonne le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci à nos invités du jour, merci Maud pour la technique et à demain dans 6h avant minuit.
Si,
la radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard. Ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h sur Syllab.
La radio sauvage.